Gästebuch.
Livre d'or.
Libro degli ospiti.
Chaque semestre, la chaire de littérature et culture française de l'École polytechnique de Zurich invite une personnalité du monde francophone à tenir, pour les étudiants et étudiantes de l'EPFZ, un cours sur des thèmes de littérature, de culture, d'histoire ou de philosophie. Dans notre podcast, nous discutons avec nos hôtes de leurs œuvres, de leur vie personnelle et des questions qui vont au-delà du cours. Nous, ce sont Charlotte Meissner
et Yeshe Gao.
Bienvenue à cet épisode un peu spécial du podcast où le professeur invité Didier Ripon invite son ami, le jeune écrivain Édouard Louis, pour nous parler de son nouveau livre sorti le 1er avril 2021 chez Seuil, Combat et métamorphose d'une femme.
Didier Ripon, sociologue, journaliste, professeur invité à l'École polytechnique de Zurich. Il est auteur de nombreux livres sur les questions sociales, dont Réflexion sur la question gay, Retour à Reims et La société comme verdict. Vos livres ont été traduits dans de nombreuses langues et ont marqué pour beaucoup de personnes, dont Édouard Louis, l'espoir ou le début d'une transformation. Vous êtes tous les deux nés dans un milieu ouvrier, marqué par la pauvreté, la violence sociale et l'homophobie. Vous avez tous les deux réussi à quitter ce milieu en étudiant, en écrivant et de vous réapproprier votre voix pour raconter vos histoires et celles de vos familles. Édouard Louis veut que ses livres soient des bombes. L'auteur de « En finir avec Eddie Bellegueule », « Histoire de la violence » et « Qui a tué mon père » représente la mauvaise conscience de la bourgeoisie et nous sommes tous et toutes curieux de son nouveau livre « Combat et métamorphose d'une femme » qui s'ajoute au portrait familial. Donc, bienvenue Édouard Louis.
Donc, nous sommes très heureux d'avoir Édouard Louis avec nous aujourd'hui pour cette séance, pour parler donc du dernier livre d'Édouard, « Combat et métamorphose d'une femme » qui est sorti il y a une dizaine de jours en France et qui rencontre un succès tout à fait spectaculaire puisqu'il est numéro un de toutes les ventes de livres en librairie depuis quasiment le jour de sa parution. Donc, une littérature exigeante, radicale, engagée, qui rencontre un public très, très large. Et il faut donc saluer cette grande réussite, nouvelle réussite d'Édouard, puisque ses précédents livres avaient également atteint ce stade, ce niveau de numéro un des ventes. C'est le quatrième livre d'Édouard, Louis. Son premier livre, En finir avec Eddie Bellegueule, est sorti en 2014. Il a publié ensuite en 2016 Histoire de la violence. Et puis en 2018, un livre qui s'appelait Qui a tué mon père et qui était une sorte d'histoire. C'est le récit de la vie de son père, mais en même temps une histoire sociale qui permettait justement de comprendre qui était son père et comment son père, qui a tué mon père, son père n'est pas mort, mais qu'il avait détruit son corps, qu'il avait détruit sa vie. C'était une très belle analyse qui se terminait sur une mise en question des politiques en donnant leur nom. Mais ces noms ne sont que des incarnations, des emblèmes, disons, des politiques qui sont imposées aux classes populaires. Donc, c'était un livre très important sur son père. Et aujourd'hui, le livre qui vient de paraître, « Combat et métamorphose d'une femme », comme vous pouvez le comprendre, c'est un peu le deuxième volet de cette histoire de sa famille, ou le troisième, puisqu'en finir avec Eddie Bellegueule était le premier volet d'un triptyque, d'une trilogie, « Combat et métamorphose d'une femme » et le sorte de portrait à la fois personnel, avec le sens du détail, du plus proche du détail, des sentiments, de qui est sa mère. Et en même temps, comme dans le précédent volume, cette analyse personnelle est un moyen pour Édouard d'essayer de penser les structures sociales qui ont fabriqué, produit la personne que sa mère a été et est aujourd'hui. Ou plutôt le contraire, disons que les structures sociales, c'est pas la mère qui permet de comprendre les structures sociales, c'est les structures sociales qui permettent l'analyse des structures, qui permet de comprendre qui est sa mère. La première question que je voudrais poser à Edouard, c'est d'abord comment est né ce projet. Il l'explique au départ. Il est tombé sur une photo chez lui, sans savoir d'où il la tenait, pourquoi il l'avait, et il voit sa mère heureuse, rayonnante. Elle figure à la fin du livre, heureuse, rayonnante. Et il se dit, mais je ne l'ai jamais connue comme ça, j'ai toujours connu malheureuse, triste, dominée, etc. Et il entreprend une sorte de voyage dans le passé de sa mère pour comprendre comment elle est passée de cette jeune femme de 20 ans, souriante et rayonnante, à la femme accablée, triste, soumise à la nécessité, à la violence de classe, à la violence masculine, etc. Et comment elle a réussi à se libérer. C'est l'histoire d'une émancipation. Donc, puisque nous avons Édouard Louis comme invité, je ne vais pas parler à sa place de son livre. Donc, la première question, Édouard, ça serait comment, après le livre sur ton père, tu as senti la nécessité de faire ce livre sur ta mère, ou est-ce que le projet était déjà inscrit d'une sorte de diptyque, le père et la mère?
Merci Didier. Pour tout ce que tu as dit, merci encore Charlotte, merci à toutes les personnes qui nous écoutent.
Comme tu disais, c'est un livre qui est né, de cette photo de ma mère que j'ai retrouvée un jour dans des documents, qui est ma mère à 20 ans, et donc ma mère avant ma venue au monde, avant que je la connaisse, avant que je la rencontre, de par ma naissance. Et c'est une photo, en effet, comme tu disais, sur laquelle ma mère avait l'air heureuse, avait l'air pleine de joie, pleine de rêves, pleine d'espoir. Alors que la femme que j'ai connue moi dans mon enfance était une femme triste, une femme effacée, une femme sombre ou plutôt une femme assombrie, qui n'était pas sombre en tant que telle, qui n'était pas sombre de caractère, mais qui était assombrie par une vie de précarité, de pauvreté, une vie de domination masculine dans laquelle l'ordre masculin, qui était incarné par mon père mais qui était plus général, l'assignait à la maison, à faire la cuisine toute la journée, parler le moins possible, à s'effacer le plus possible, à être au service des hommes et de l'homme de la maison qui était mon père, qui répétait d'ailleurs très souvent « c'est moi l'homme ici, c'est moi qui commande ». Et donc, quand j'ai retrouvé cette photo de ma mère, je me suis dit, en effet, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette femme qui était si pleine de bonheur sur son visage, si pleine de rêves, si pleine d'espoir à 20 ans, était une femme aussi assombrie, aussi triste, 10 ans plus tard à peine, quand j'ai grandi à ses côtés? Et le livre a commencé comme une forme d'archéologie de la destruction, qui pourrait être une forme de titre qui résumerait un petit peu tous mes livres. Qu'est-ce que serait faire une archéologie de la destruction et de montrer à quel point des forces sociales, la domination masculine, le racisme, la domination de classe, l'homophobie, viennent délimiter, circonscrire, détruire des vies. C'est toujours ce que j'ai essayé de raconter à travers mes livres. Et je pense que ça, c'était encore une fois un point de départ très important. Mais à la fois, il y avait quelque chose de différent dans ce livre par rapport à Eddie Bellegueule, à Histoire de la violence ou à Qui a tué mon père. C'était que ce livre incarnait justement l'histoire d'une libération, l'histoire d'une émancipation. D'ailleurs, on l'entend dans le titre, c'est un livre qui s'appelle Métamorphose.
Métamorphose,
alors,
oui.
Alors que les combats et Métamorphose, alors que les autres livres... s'appelait Histoire de la violence, qui a tué mon père, en finir, et qui incarnait une forme de noirceur qui était beaucoup plus grande. Et au fond, à travers cette histoire de ma mère et cette trajectoire de ma mère, j'ai voulu un petit peu m'intéresser à la lumière, après m'être intéressé aux ombres dans mes premiers ouvrages, et au fond m'interroger sur ce qu'on pourrait appeler un paradoxe de la domination, qui fait qu'à l'intérieur de cette famille ouvrière, populaire, dans laquelle j'ai grandi, les personnes qui ont réussi à s'émanciper, plus ou moins, en tout cas le mieux possible de cette violence, c'était les deux personnes les plus dominées, à savoir moi, en tant que gay, qui était rejeté à l'intérieur de ce milieu, à l'intérieur de cette famille, qui était le petit PD, celui qui n'avait pas beaucoup d'amis à l'école, celui qui n'avait pas beaucoup d'amis dans le village, et ma mère, qui était... cette femme assignée à domicile, assignée à résidence, comme confinée un petit peu depuis sa venue au monde, parce qu'elle était femme, parce que le monde lui imposait une identité de femme. Et de quelle manière, c'était un des sujets pour moi importants dans Combat et Métamorphose, de quelle manière, par une forme de paradoxe, les individus qui subissent la domination, ma mère et moi, une domination masculine, une domination homophobe, qui se recoupent d'ailleurs, qui sont deux faces de la violence de l'ordre masculin et masculiniste surtout. En quoi ces deux identités qui étaient les plus dominées sont devenues les deux visages de l'émancipation, au fond.
Être soumis à une domination, c'est des différentes formes de domination, c'est ce qui pousse les individus qui y sont soumis à essayer parfois de fuir et parfois aussi à réussir à fuir, ce qui n'est pas, parce qu'il ne suffit pas d'essayer pour réussir. Et donc, de fait, il y a un parallèle entre l'histoire que tu racontais dans ton histoire, dans ton premier livre, En finir avec Eddie Bellegueule, et celui-ci, qui sont deux histoires de… alors évidemment, c'est la même famille, c'est la même ville, mais deux histoires quand même très différentes, entre le jeune gay qui veut se libérer du poids des déterminismes sociaux qui pèsent sur lui, l'homophobie, etc., qui veut se réinventer, et pour ta mère, c'est… dire le poids de la domination masculine, mais qui est imbriqué dans le poids de la domination sociale, de ce que tu décris de ta mère. C'est à peu près ce que j'ai vu chez toutes les femmes des classes populaires. Avant de se marier, elles ont 20 ans, elles sourient, elles sont d'une certaine manière joyeuses. Dès qu'elles se marient, au bout d'un an, c'est fini. Elles sont soumises comme ça à un destin de femmes des classes populaires, c'est-à-dire soit rester à la maison et faire la cuisine, le ménage, s'occuper des enfants, soit aller travailler et rentrer et faire une deuxième journée de travail, c'est-à-dire faire la cuisine, le ménage, s'occuper des enfants. Donc, j'ai retrouvé dans ce que tu décris dans ce livre-là beaucoup, beaucoup de choses de ce que j'ai vécu dans ma propre famille et les rapports entre mon père et ma mère, c'est-à-dire les rapports entre les hommes des classes populaires et les femmes des classes populaires et la difficulté de s'émanciper. Parce qu'à un moment, tu dis que ta mère se dit « je voudrais partir, je voudrais fuir, mais pour aller où ?» Donc, il ne suffit pas d'avoir l'envie de partir, il y a aussi le… Quelles sont les possibilités pour une femme qui n'a pas fait d'études, qui n'a pas de travail, qui n'a pas de capital culturel ni de capital social, qui ne connaît personne? Comment réussir à fuir?
Mmh. Oui, pour moi, c'était un des enjeux de combat et métamorphose d'une femme, c'était de montrer que ma mère, en tant que femme des classes populaires, elle avait été presque deux fois plus femme que d'autres femmes d'un milieu plus dominant, d'un milieu plus bourgeois, d'un milieu plus privilégié, non pas parce qu'il n'y aurait pas de violence masculine dans les classes dominantes, évidemment, mais parce que la domination de classe venait redoubler, comme tu étais en train de le dire, venait redoubler la domination masculine. Et qu'en effet, quand on est femme des classes populaires et qu'on n'a pas de capital social, qu'on n'a pas de capital culturel, qu'on n'a pas de capital économique, qu'on n'a pas de relations, qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas de diplôme, il est beaucoup plus difficile de fuir une situation d'oppression, une situation dans laquelle on est confronté à un homme violent, à un mari violent. Et donc ma mère, oui, pendant toute mon enfance, et ça revient dans le livre, ma mère disait je voudrais bien partir, mais pour aller où? Qu'est-ce que je vais faire? C'était une phrase qui revenait très souvent. Et au fond, avec encore une fois, comme tu disais, ce paradoxe qui fait que justement parce qu'elle était exclue, en tant que femme, à l'intérieur du foyer familial et dans l'univers ouvrier dans lequel on vivait, ou en tout cas même encore moins qu'ouvrier, parce que souvent on vivait des aides sociales, plutôt on survivait des aides sociales, et les usines étaient plutôt en train de fermer toutes les unes après les autres, donc ouvrier c'était plutôt le monde d'avant. Mais dans ce contexte, ma mère était mise à l'écart en tant que femme, et paradoxalement, c'est ça que j'appelais une forme de paradoxe de la domination, paradoxalement, parce qu'elle était mise à l'écart en tant que femme, tout à coup, elle voyait, dans une certaine mesure évidemment, elle voyait le monde depuis l'extérieur. Et quand on se met à voir le monde depuis l'extérieur, on se met à se rendre compte de ce qui ne va pas à l'intérieur de ce monde.
Comme un autre monde possible, virtuel, tu dis, qui aurait pu être le sien, comme si ce monde virtuel l'attendait et qu'à un moment, elle essaie de rejoindre, dans lequel elle essaie d'entrer.
Oui, c'est ça. C'est qu'au fond, les représentants de l'ordre masculin, de l'ordre masculiniste, qui étaient mon père, mes frères, mes cousins, etc., étaient au fond quasiment aveuglés par leur propre domination. Eux ne voyaient pas le monde de l'extérieur, ils étaient tellement privilégiés par ce monde d'un point de vue du genre.
Dominés par leur domination, c'est ça.
Dominés par leur propre domination, aveuglés par leur propre domination, et ne voyaient pas le monde de l'extérieur, alors que ma mère, elle le voyait, que moi, en tant que petit PD, celui à qui on disait « tu n'es qu'un petit PD », je voyais ce monde de l'extérieur, et tout à coup, ma mère, puisque en tant que femme, elle a eu très vite le sentiment qu'on lui volait sa vie, quand vous avez le sentiment qu'on vous vole quelque chose, vous pouvez venir réclamer ce vol. Et ma mère, toute sa vie, a essayé de réclamer ce vol. Elle me disait, je mérite pas ça, je mérite pas cette vie. Pourquoi ton père me parle comme ça? Alors qu'au fond, paradoxalement, mon père, qui dominait en tant qu'homme, lui n'avait pas l'impression qu'on lui volait quelque chose. Et c'est quelque chose que...
Ce qui est frappant, c'est dans le livre, tu décris plusieurs moments où elle essaie d'accéder à quelque chose d'autre. Par exemple, la scène sur les vacances au début du livre, quand elle rêve d'aller en vacances et elle déploie des trésors d'énergie pour sans argent, obtenir une aide de l'État pour que les familles des classes populaires puissent aller passer 8 jours, quelques jours à la montagne. L'énergie qu'elle déploie est assez remarquable. Il y a une autre scène qui m'a beaucoup frappé, qui est le moment où elle devient amie avec quelqu'un du village qui s'appelle Angélique, qui est d'un statut social un peu plus élevé. Je dis élevé, il faut bien employer un vocabulaire, hein, il n'y a pas de connotation péjorative à son égard dans ce vocabulaire. Un niveau d'éducation, un niveau de revenu un peu plus élevé. Et elle s'accroche à cette possibilité d'une amitié avec quelqu'un qui la sort de sa routine, de l'enfermement avec son mari, ses enfants, etc. Et puis ce rêve se brise quand cette femme avec qui elle est si heureuse de pouvoir devenir amie la rejette parce qu'elle-même, elle a ses propres problèmes, rencontre un homme et veut vivre avec cet homme et donc met à distance ta mère qui en conçoit une profonde amertume, une profonde déception.
Oui, oui, ce qui m'avait intéressé.
C'est une scène magnifique du livre.
Oui, mais c'est une histoire belle et triste à la fois. Et au fond, ce qui m'a intéressé dans cette histoire, c'est l'articulation là entre la psychologie et la psychologie au sens presque clinique et la sociologie, parce que cette femme qui avait un statut social un peu plus privilégié que nous dans le village, donc qu'on fréquentait jamais parce qu'elle nous apparaissait comme presque une petite bourgeoise, comme presque c'était les petites classes moyennes de la campagne, mais pour nous c'était déjà tellement intimidant, tellement on lui adressait rarement la parole, et un jour, c'est ce que je raconte dans le livre, cette femme a vécu une rupture amoureuse qui l'a rendue très triste. Comme une rupture amoureuse peut rendre triste. Et un jour, on a vu cette femme en train de pleurer à la fête du village. Mes parents se sont approchés d'elle et ont commencé à lui parler. Et l'état de tristesse psychologique, de détresse psychologique, parce que je me souviens qu'elle pleurait souvent, dans lequel elle était, a permis un rapprochement avec ma famille. Et tout à coup, la détresse psychologique du sentiment amoureux, de la perte amoureuse...
Rendait un rapprochement sociologiquement improbable possible.
Absolument, rendait un rapprochement qui était sociologiquement d'habitude impossible, parce que dans les espaces ruraux comme ça, dans les petits villages, comme dans celui dans lequel j'ai grandi, les frontières de classe en fait sont très marquées, très dures, et donc il y a... à la fois les ouvriers d'un seul coup, les gens qui vivent des aides sociales d'un côté, et puis de l'autre.
Ça semble très marqué ailleurs aussi.
Et aussi ailleurs, très marqué. Très marqué. Non, non, bien sûr, très marqué ailleurs, mais justement, on pourrait avoir l'impression que dans les villages, par la proximité physique, il y a une rencontre possible, alors qu'en fait, pas du tout. Et il y avait une petite élite comme ça du village qui était le pharmacien, la pharmacienne, le médecin, l'épicière, le maire. Et cette femme, et tout à coup, ce rapprochement a été possible avec cette femme qui nous avait tant intimidés avant. Et de par le rapprochement avec elle, en effet, ma mère s'est transformée. Elle voyait une femme qui avait un peu plus de privilèges sociaux, justement, un peu plus d'argent, un petit peu plus d'indépendance, qui avait déjà pu voyager, qui avait déjà pu aller à des concerts, qui avait déjà pu prendre le train. Moi, ma mère a jamais pris le TGV de sa vie, par exemple. Elle a jamais pris l'avion de sa vie. Donc, ce sont des choses aussi qui sont très déterminantes dans le rapport au monde, dans le rapport à l'espace. Quasiment personne, même mes frères et sœurs qui ont aujourd'hui 20 ans, ont jamais pris l'avion ou le train, le TGV en tout cas. Et tout à coup, la rencontre avec cette femme a transformé ma mère. Et le livre est aussi, à un moment donné, devient une réflexion sur l'amitié comme principe transformateur. Ma mère rencontrait une femme, se mettait à limiter dans sa liberté, se mettait à vouloir aller à la mer avec elle, se maquiller comme elle, prendre soin d'elle comme elle, etc. Et elle trouvait presque une alliée féminine tout à coup contre la domination masculine grâce à cette femme.
Elle trouvait une image, un modèle qu'elle peut essayer d'imiter par l'intermédiaire de la relation d'amitié. Et ça, c'est très beau, cette réflexion sur l'amitié comme vecteur d'une transformation possible de soi-même, transformation sociale, physique même, puisqu'en effet, elle se maquille.
Oui, je pense qu'au fond, l'amitié est quasiment un des seuls espaces de transformation possibles, un des seuls espaces de transformation sociale de soi-même. Et moi, toute ma vie, je me suis transformé par l'amitié aussi. J'ai eu des amis au lycée qui venaient d'un milieu différent du mien et qui venaient de milieux plus privilégiés, où ils avaient accès plus à la littérature, au théâtre, à l'art. Et très vite, j'ai voulu imiter ces gens-là, j'ai voulu leur ressembler. Ils m'ont entraîné dans leur monde, ils m'ont accueilli dans leur monde. Et plus tard, la rencontre avec toi, Didier, c'est un secret pour personne, et notre amitié. Et au fond, dans un monde structuré par les rapports de domination et par des rapports de reproduction sociale, des reproductions de classe, très souvent, l'amitié est le canal par lequel on peut essayer de naviguer entre ces violences, de naviguer entre ces dominations. Et c'est ce qui s'est passé pour ma mère au moment où elle a rencontré cette femme. Tout à coup, je me souviens du visage de ma mère quand elle pouvait tout à coup se moquer de mon père parce qu'elle avait une femme à ses côtés qui était plus libre, qui avait plus de pouvoir dans son discours. Elle s'est mise à utiliser un autre langage jusqu'au jour où, en effet, cette femme-là a rencontré un homme, Angélique, a rencontré un homme. Et la tristesse, sa détresse psychologique qui était celle de la perte du sentiment amoureux a disparu. Et là, les frontières de classe se sont immédiatement reconstituées. Et cette femme n'a plus supporté notre monde, notre milieu. Et elle s'est mise à dire du jour au lendemain, je peux plus supporter les manières de parler, je peux plus supporter cette obsession de la télévision que vous avez. Quand j'étais petit, on regardait la télé 8-10 heures par jour. Elle pouvait plus supporter les manières d'être, de penser. Mon père qui parlait du Front National, qui faisait des éloges de Le Pen ou du Front National à répétition. Voilà, donc cette expérience s'est achevée pour ma mère. C'était quelque chose de très violent, cette perte. Mais elle a fait partie d'une succession de combats de ma mère pour essayer d'atteindre une forme d'émancipation.
Il y a une autre scène tout à fait marquante dans le livre, une autre rencontre avec une autre femme. Alors là, c'est un milieu social. Ta mère finit par en avoir assez de cette vie qu'elle mène avec ton père. Un jour, elle t'appelle, elle dit « je l'ai fait », c'est-à-dire que elle a pris toutes ses affaires, les a mises dans des sacs, a posé les affaires sur le trottoir devant la maison, a fermé la porte à clé. Et quand ton père est rentré du café au milieu de la nuit, elle n'a pas voulu lui ouvrir et c'était terminé. Tu ne reviens plus jamais. C'était le début d'une transformation. Ils ont divorcé, elle s'est installée elle a rencontré un autre homme, ce qui était très bien pour elle, parce que c'était, comment dire, elle choisissait quelqu'un et elle ne subissait plus quelqu'un qu'elle avait choisi auparavant et avec qui elle continuait de vivre. Donc elle choisit quelqu'un d'autre. Cet homme qui habite le village d'Alencourt où ta mère vivait, où tu vivais quand tu étais enfant, cet homme vient travailler à Paris comme gardien d'une mairie d'arrondissement dans le centre de Paris. Et donc, ta mère vient à Paris s'installer, en tout cas une bonne partie de la semaine, avec lui dans un quartier qui est vraiment tout le contraire d'Alencourt, des villes pauvres du nord de la France, un des quartiers les plus bourgeois de la capitale. Et elle est là dans ce beau quartier. Et comme toi, tu connais des gens par ailleurs, puisque tu t'es installé à Paris depuis longtemps, tu es devenu écrivain. Un jour, tu vas sur le tournage d'un film et dans ce film, il y a Catherine Deneuve, Juliette Binoche, je crois. Quelqu'un te dit « Est-ce que tu veux rencontrer Catherine Deneuve ?» Tu vas dire bonjour à Catherine Deneuve et ne sachant pas trop quoi lui dire, tu dis « Ah, ma mère habite à côté de chez vous », quelque chose comme ça. Catherine Deneuve te dit « Ah, ben je vais aller », et tu lui dis « Elle est avec le gardien de la mairie. » Et Catherine Deneuve, « Ah, moi, je vais aller lui dire bonjour. » Tu penses que c'est une phrase en l'air, qu'évidemment, elle disait ça pour être gentille, qu'évidemment, elle n'allait pas le faire. Et puis, quelques jours après, ta mère te dit, « Tu sais avec qui j'ai parlé aujourd'hui, c'est Catherine Deneuve qui est venue me voir. On a fumé une cigarette ensemble, etc. » J'admire Catherine Deneuve comme actrice, mais là, on peut l'admirer comme personne, parce que avoir fait ce geste d'une gentillesse extrême, ta mère en était bouleversée. Et donc, ta mère qui est une femme des classes populaires, sans métier, sans culture, sans éducation, qui d'un seul coup se retrouve sur une belle place du centre de Paris à discuter avec Catherine Deneuve. Et d'ailleurs, ce très beau passage où elle te dit je me mettais bien au milieu pour que tout le monde me voit en train de parler avec Catherine Deneuve. C'est une scène superbe, pas seulement pour l'anecdote, parce que c'est Catherine Deneuve, mais aussi parce qu'on voit que L'émancipation est un processus, la libération de soi-même est un processus, et que pour pouvoir parler avec Catherine Deneuve sur une place de Paris, il faut aussi avoir eu la volonté de se changer soi-même quand on vient du milieu d'où elle vient, de la même manière que toi, tu as dû te changer toi-même pour devenir ce que tu es. Ça vaut pour moi aussi, hein, j'ai dû me réinventer pour devenir ce que je suis. Donc cette scène est très très belle et elle est au cœur du livre. Je trouve que c'est une scène assez emblématique. C'est magnifique, c'est un moment magnifique du livre.
Oui, merci.
Tous les moments qui sont magnifiques.
Non, c'est vrai que pour ma mère, cette scène, c'était important pour moi de raconter cette scène, parce que pour ma mère, ça a représenté une forme d'acmé de sa métamorphose, de sa libération, de la libération de mon père, du fait qu'elle soit partie du village, qu'elle se soit recréée, émancipée dans une certaine mesure. Il n'y a pas un jour où ma mère m'en parle pas. Je parle avec elle tous les jours. Elle me dit Catherine Deneuve, quand j'ai joué qui a tué mon père au Théâtre de la Ville avec Thomas Ostermayer à Paris, et que Catherine Deneuve est venue voir le spectacle, elle est venue me voir dans la loge ensuite et elle m'a dit « Comment va votre maman ?» Et je l'ai répété à ma mère qui était dans un état de…
J'imagine,
oui. De presque transe. Et au fond, pour moi, c'était important parce que c'était comme le destin de femme qui était le plus éloigné de celui de ma mère. Là, une grande actrice privilégiée, bourgeoise, qui joue fait partie de la plus grande avant-garde cinématographique.
Une célébrité mondiale, sans doute une des personnalités mondiale. Les plus célèbres, une des personnalités françaises les plus célèbres à l'échelle internationale. On peut lire ton livre, bien que la question ne soit pas… Tu ne poses pas la question explicitement dans le livre, mais on peut le lire comme l'ouverture d'une discussion critique avec le féminisme, avec les mouvements féministes, tels qu'ils se déploient aujourd'hui, notamment en France ou en Europe occidentale, mais particulièrement en France, qui laissent de côté des femmes comme ta mère. Ta mère ne fait pas partie, je pense qu'elle se définirait pas elle-même comme féministe, et même si tu lui disais « toi qui es féministe », elle hurlerait. Comme ma mère qui voulait s'émanciper mais qui détestait le mot féminisme. Ton livre engage d'une certaine manière par son existence même, par ce qu'il décrit, par la vie qu'il décrit, les structures sociales qu'il essaie de restituer. Ton livre engage une discussion avec le féminisme sur ce qui est oublié, occulté, laissé de côté par un mouvement aussi puissant que le mouvement féministe aujourd'hui. Par exemple, tu décris que ta mère veut absolument se maquiller, veut être belle, elle veut correspondre un peu au cliché de la femme des magazines féminins. Pour ta mère, c'est ça l'émancipation. Et donc, si on parle de féminisme et d'émancipation des femmes, il faut parler de ta mère.
Oui, c'est-à-dire que, évidemment, quand on parle des femmes et de la condition des femmes, faut toujours se poser la question de… qui est-ce qu'on oublie, de qui on ne parle pas quand on dit le mot femme. Exactement comme des gens ont montré ces dernières années que parfois quand on disait le mot gay, on parlait simplement d'une partie des gays privilégiés, plutôt blancs, plutôt des villes, etc. Et donc à chaque fois de poser une interrogation critique permet d'élargir les catégories.
Bien sûr, oui.
Et c'est vrai que
oui, c'est pas une mise en question populaire. Des mouvements, bien sûr. Un mouvement dit quelque chose, affirme quelque chose, et puis ensuite on peut dire ben voilà, en disant ça, ce mouvement-là néglige ou oublie, ou évidemment quand on parle de quelque chose, on ne parle pas d'autre chose. Et il est toujours bien que quelqu'un vienne dire voilà, il faut aussi parler de ça.
Oui, et bien sûr, et donc comme dans la mesure où les femmes comme ma mère n'ont pas accès à l'espace public, n'ont pas accès au discours, n'ont pas parfois, et ça c'est encore plus difficile à affronter, n'ont parfois même pas accès à ce qu'ils ou à ce qu'elles vivent, parfois la dépossession et l'exclusion sociale font que on est empêché même de lire sa propre vie. Et ma mère, en tant que femme, elle a parfois été empêchée de lire sa propre vie en tant que femme, parce qu'elle n'avait pas eu les outils théoriques, intellectuels, scolaires qui lui permettaient de comprendre ce qui se passait autour d'elle, cet ordre masculin. Elle avait toujours tendance à dire « c'est ton père qui a un sale caractère, c'est ton père qui n'est pas sympa, c'est ton père qui est dur avec moi », alors qu'en fait mon père incarnait simplement une structure, mais qu'elle avait pas la possibilité de voir. Et c'est ce que je disais à un moment dans la petite introduction que j'ai fait à ton livre « Retour à Reims, Didier ». en France, en édition Champflammarion, qui est que parfois la domination est telle qu'on est empêché de voir sa propre vie. Et parfois, il faut avoir une distance pour réussir à en parler. Et ma mère, au moment où elle vivait cette domination de manière la plus brutale, la plus violente, c'était le moment où elle la voyait la moins, finalement. Et aujourd'hui, alors qu'elle s'en est éloignée, elle est beaucoup plus lucide. Elle est beaucoup plus lucide sur ce qu'elle vivait, ce qui lui était imposé, la normalité de ce qui lui était imposé. Et donc, il était question pour moi, oui, de parler de ces visages de femmes qu'on voit moins, aussi parce que en tant que gay, j'ai toujours ressenti une communauté de destin avec les femmes. C'est pas un hasard si Pedro Almodovar a fait tant de films avec et sur des femmes. C'est pas un hasard si Xavier Dolan a fait tant de films avec et sur des femmes. Moi, j'ai eu, en tant que gay, qui était exclu de la masculinité, toute mon expérience scolaire, j'étais ami que avec des filles. Je n'ai eu que.
Alors là, tu anticipes sur la question que je voulais te poser juste après, que tu abordes d'ailleurs celle-ci explicitement dans ton livre. Qu'est-ce que c'est que pour un homme d'écrire sur une femme, de ne pas écrire sur une femme, mais d'essayer de restituer l'histoire d'une femme, de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a ressenti, de ce qu'elle a pensé, de comment elle a voulu changer, etc. Tu poses la question explicitement, est-ce qu'un homme peut écrire sur une femme? Alors oui, évidemment, beaucoup de textes littéraires ont parlé de, comment dire, Flaubert a écrit Madame Bovary, un homme peut écrire sur une femme, et je ne pense pas du tout que seule une femme peut restituer la trajectoire, les pensées, les sentiments d'une femme, comme tu le fais avec ta mère. Mais comme tu poses la question explicitement dans ton livre, c'est donc que tu avais en tête l'idée que soit on te le reprocherait, tu voulais anticiper ce reproche, cette critique, soit tout simplement parce que c'est une question qui se pose, comment on peut restituer des sentiments, une expérience vécue, si on est quelqu'un qui, par définition, puisque tu n'es pas une femme, n'a pas vécu cette expérience, n'a pas traversé l'expérience sociale, oui, mais l'expérience genrée, non. Donc, tu poses cette question, et donc, puisque tu la poses, j'aimerais que tu dises quelques mots sur ce point.
Oui, oui, c'est comme toi. Moi, je partage l'idée selon laquelle tout le monde peut parler de tout, et que la question c'est pas qui parle, mais la question c'est qu'est-ce qui est dit. La question c'est pas qui, c'est quoi. C'est est-ce qu'on dit quelque chose de libérateur, est-ce qu'on dit quelque chose d'émancipateur, ou est-ce qu'on dit quelque chose de rétrograde. Et évidemment, je préfère entendre Pierre Bourdieu sur les femmes que Margaret Thatcher. Et même en tant que gay, je préfère entendre Thomas Ostermayer sur les gays que Edgar
Florian Philippot, le politicien d'extrême droite, ancien oui. proche de Marine Le Pen.
De Marine Le Pen, qui est gay et qui tient des discours homophobes, par définition, parce que il est d'extrême droite. Et donc, bien sûr, après la question de savoir s'il y a seulement des hommes qui parlent des femmes ou seulement des personnes hétérosexuelles qui parlent des gays, c'est une autre question. D'ailleurs, ce qui est moins le cas en littérature, puisqu'il y a une grande tradition d'écrivains gays, une grande tradition d'écrivaines. Je parlais de Toni Morrison, Marguerite Duras, Svetlana Alexievitch, qui m'ont beaucoup marqué, et beaucoup, beaucoup d'autres. Mais le fait est que je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que quand même, puisque je suis socialement constitué comme un homme, est-ce que je peux comprendre un certain nombre d'émotions, d'expériences, de sentiments qui ont traversé ma mère en tant que femme? Et en me posant cette question, je me suis dit, mais encore une fois, l'identité, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, parce que, au fond, qu'est-ce que c'est la masculinité? Si la masculinité, c'est la camaraderie masculine, j'en ai pas bénéficié dans mon enfance. J'avais jamais de copains à l'école. J'avais que des copines. Et ma mère, d'ailleurs, qui pouvait tenir des discours homophobes, disait, ah, il traîne qu'avec des filles, il sera jamais pédé. On voit, il adore les filles, alors que c'était plutôt une preuve.
Nous aimons beaucoup ta mère, mais elle n'était pas très psychologue.
Elle était moins psychologue, ouais, sur la question de la sexualité. Mais mon père partait au café avec mes frères et sans moi, parce que j'étais un garçon efféminé qui faisait honte à mon père quand je parlais, qui était pas assez masculin pour mon père. Et au fond, la protection de l'agression sexuelle et du viol, qui est normalement un privilège masculin, j'en ai pas été sauvé parce que
protégé,
je suis gay,
bien sûr, oui.
J'en ai pas été protégé, j'ai écrit dessus dans Histoire de la violence. Et donc je me suis dit, au fond, socialement, j'ai été toujours beaucoup plus proche du côté de la féminité que de la masculinité. Et d'écrire le livre sur mon père, qui est cet homme macho des classes populaires, était au fond pour moi beaucoup plus exotique que d'écrire sur une femme, parce que j'ai grandi avec ces femmes, j'étais mis au banc de la masculinité en tant que gay, ce qui ne veut pas dire qu'on comprend absolument tout, on comprend jamais absolument tout, même sur soi-même, C'est vrai que je connais pas la masculinité. Je sais pas. Quand je marche le soir dans la rue et que je vois des groupes de garçons, j'ai peur un petit peu. Je m'éloigne, je fais attention. Et au fond, c'est quelque chose qui m'est beaucoup plus étranger. Et oui, en ce sens, écrire ce livre sur ma mère était. Après, ça ne veut pas dire qu'on peut pas réussir à comprendre une condition comme ça par d'autres moyens, par d'autres outils, comme par la sociologie.
Oui, de toute façon, c'est pas elle qui va raconter sa vie dans un livre, puisque, comme on l'a dit, elle ne maîtrise pas les instruments de la culture, puisque malheureusement, elle n'y a pas eu accès, comme c'est le cas de la plupart des gens des classes populaires. Elle a eu, surtout de sa génération, très peu accès aux éléments et instruments de la culture. C'est pas elle qui va écrire un livre sur elle-même. Pour autant que d'ailleurs qu'elle en aurait eu l'idée ou l'envie.
C'est une question politique, oui, que en plus tu as beaucoup posé, Didier, dans tes livres, qui est que moi, par exemple, c'est une histoire que j'ai beaucoup racontée, mais qui est très illustrative, je trouve, c'est que quand j'ai publié mon premier roman, En finir avec Eddie Bellegueule, sur mon enfance, la pauvreté dans les classes populaires de mon enfance, la première chose que ma mère ait pu me dire, c'est pourquoi tu dis qu'on est pauvre? Et ma mère voulait pas que je parle de la pauvreté, voulait pas que je dise cette pauvreté. Elle avait honte de cette pauvreté, elle avait honte de souffrir. Et comment on parle de la violence quand les personnes qui vivent la violence ne veulent pas parler de cette violence?
Ne veulent pas parler de la violence.
Honte de la violence. Et au fond, pour moi, c'était justement l'éloignement d'avec la pauvreté qui m'a permis d'en parler de manière juste, j'espère, de manière lucide, de manière directe. Et parfois, c'est justement parce qu'on subit la domination qu'on est privé de la possibilité d'en parler. Alors évidemment, c'est toujours beaucoup plus facile de dire il faut donner la parole à tout le monde, laisser tout le monde s'exprimer, ne pas parler à la place d'eux. Mais au fond, c'est se condamner, quand on dit ça, une forme de naïveté sociologique.
Bien sûr,
on n'interroge pas sur les moyens de l'expression. Moi, quand j'étais un gay dans le placard à l'adolescence, parce que j'avais intériorisé la honte de ma propre homosexualité, parce que j'avais une haine de ma propre sexualité, de mon propre désir, si on m'avait interrogé sur l'homosexualité à l'époque, alors que je l'étais, que je ressentais un désir pour les hommes qui m'entouraient, j'aurais sans doute tenu des discours très réactionnaires, homophobes sur la question. Et donc l'expérience de en tant que gay était pas suffisante pour pouvoir tenir un discours vrai ou un discours juste sur l'homosexualité.
Oui, c'est très difficile. Donc, moi je me souviens que quand Retour à Reims est sorti, ma mère l'a lu et elle m'a dit c'est un vrai roman ton livre, tout est faux. Et je lui ai dit non maman, tout est vrai. Ah mais peut-être, mais t'avais pas besoin de raconter tout ça. Et donc, on passait de tout est faux à « fallait pas le raconter » parce que « qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Qu'est-ce que les gens vont penser de nous ?» m'a-t-elle objecté, ce que je peux très bien comprendre. Mais par exemple, dans les discussions avec elle, elle me dit « tes frères sont furieux contre toi parce que tu as dit qu'ils n'avaient pas passé le bac ». Et je dis « c'est vrai ». Elle me dit « ah mais tu sais, c'est pas parce qu'ils n'étaient pas intelligents, c'est parce que ça ne leur plaisait pas d'aller au lycée, de faire des études ». Pour ma mère, si mes frères se sont déscolarisés volontairement, comme ils pouvaient le croire, c'était leur choix. Pour ma mère, c'était parce que ça ne leur plaisait pas de faire des études. Si moi, je fais une analyse de ça, si je restitue cette histoire, je vois, c'est les lois inéluctables et très dures de l'élimination scolaire des enfants des classes populaires, du système éducatif. Les enfants des classes populaires sont systématiquement, au fil du parcours scolaire, éliminés plus ou moins tôt, mais sont éliminés ou n'accèdent pas aux filières les plus hautes, les plus prestigieuses. Si moi j'ai fait une analyse, je contredis le discours de ma mère. Mais c'est moi qui ai raison. Contre elle, c'est un point de vue, comme le point de vue immédiat. Moi, c'est le point de vue qui restitue l'effet d'une structure sociale sur les vies individuelles. Donc, ces vies individuelles ne sont pas des choix, sont des effets de la contrainte sociale. Et ça, tu le restitues très bien sur ta mère et tu le restituais dans le livre d'avant très bien sur ton père. Et je voulais t'interroger sur ce point. Le livre précédent s'appelle précisément « Qui a tué mon père ?». Comme j'ai dit tout à l'heure, ton père n'est pas mort. Tu décris son dos brisé par un accident à l'usine, puis son incapacité à retrouver du travail, puis l'obligation par l'État et l'administration de retrouver un travail s'il veut conserver les aides sociales. Et donc, il devient balayeur dans la ville à côté de là où il habite. « Qui a tué mon père ?» Le titre le dit, c'est une défaite, une destruction par le monde social, par la politique d'un homme. « Combat et métamorphose d'une femme », qui est un peu le pendant dans ce diptyque, c'est sur ton père, là c'est sur ta mère, « Combat et métamorphose d'une femme », c'est un peu le contraire. Non pas qu'elle ne soit pas soumise à des contraintes sociales, économiques, culturelles, de genre, etc. Mais tu l'as décrit comme une femme qui, elle, ton père est brisé par tout ça, ta mère, elle, s'en sort. Donc, il y a comme deux destins tout à fait différents. Et comme tu disais tout à l'heure, celle qui était la plus écrasée par le destin social, par la place sociale qui lui est assignée, de classe, de genre, etc., c'est celle qui, d'une certaine manière, réussit à s'en sortir dans certaines limites, puisque il va de soi que le point d'arrivée est quand même largement délimité par le point de départ. Et quand on est ce qu'a été ta mère, on ne devient pas avocate d'affaires, chirurgienne, journaliste dans un grand journal parisien, etc. Donc le point de départ façonne le point d'arrivée, le délimite. Mais malgré tout, il y a un parcours, une trajectoire qui l'émancipe dans une certaine mesure de ce qu'elle a été. Donc il y a deux parcours différents.
Deux parcours différents et en effet, la métamorphose de classe est limitée par la violence sociale qui fait qu'on peut pas tout à coup sortir de sa condition comme ça du jour au lendemain. Mais au fond, est presque plus dans Combat et métamorphose d'une femme sur la question du bonheur. C'est que ma mère aujourd'hui, c'est une femme heureuse de par cette émancipation. Elle me le dit. Elle me dit, je suis heureuse. C'est très important. Et quand j'étais petit, elle me disait, je suis malheureuse. Elle le disait, je suis malheureuse. Ton père m'humilie. Mon père, parfois, au fête du village, appelait ma mère la grosse vache. Les gens riaient. Ma mère me disait, je sais pas pourquoi ton père m'humilie comme ça. Elle était profondément malheureuse. Et cette métamorphose lui a apporté le bonheur qui est presque aussi, voire plus important, je sais pas, que les conditions sociales. Et au fond, ce livre est aussi une réflexion sur la manière, alors là, dont les deux fonctionnent ensemble et dont les conditions sociales, pas seulement économiques, mais les conditions sociales au sens le plus général, offrent une possibilité du bonheur, de la tendresse. Il y a cette scène dans le livre que tu évoquais tout à l'heure, qui est que quand j'étais petit, un jour, on a réussi à partir en vacances alors qu'on n'y allait pas parce que c'était pas pour nous, ça coûtait trop cher. Et un jour, par un programme d'aide sociale, ma mère a réussi à faire en sorte qu'on parte en vacances. On est parti pendant une semaine à la montagne sans mon père. Et pendant cette semaine de mon enfance, ma mère est devenue plus souriante, plus tendre, très drôle. Elle faisait des plaisanteries tout le temps qui étaient en fait comme une forme de, je le savais pas à l'époque, de préfiguration de ce qui allait se passer, de ce qui allait se passer après. Mais c'est comme si pendant cette semaine-là, où ma mère était devenue plus heureuse, j'avais pu créer une relation avec elle qui n'avait pas existé pendant mon enfance, parce que pendant mon enfance, elle était cette femme assombrie, effacée, avec laquelle j'arrivais pas à dialoguer, que j'arrivais pas à comprendre. Et je me suis rendu compte en écrivant ce livre que justement, si ma mère avait pas été toujours tendre ou généreuse quand j'étais petit, elle disait justement parfois des trucs très durs sur l'homosexualité. Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu parles comme une fille? Pourquoi tu parles comme un PD? Toutes ces choses-là, à partir du moment où ses conditions de vie ont un petit peu changé, il y a comme une autre personne qui est née en elle. Et c'est pour ça que tu parlais de qui a tué mon père. Pour moi, Combat et métamorphose d'une femme est un livre aussi politique que qui a tué mon père, dans la mesure où ce qu'il montre, c'est que changer la vie politiquement des gens, c'est aussi donner la possibilité de la tendresse, c'est aussi donner la possibilité de la compréhension, de l'amour. Ma mère était une femme qui vivait sous une forme de stress permanent qui la rendait plus dure, qui la rendait plus agressive. Et à partir du moment où elle s'est libérée de mon père et de cette situation dans le village, elle est devenue quelqu'un qui a écouté les autres, qui s'est intéressée aux autres. Et
c'est à ce moment-là que, d'une certaine manière, tu la rencontres. Tu dis dans ton livre, parce qu'elle change, je peux la rencontrer, je peux la retrouver. Tu dis, je deviens son fils. Ce que tu ne pouvais pas imaginer, accepter auparavant. Donc, sa transformation, qui est liée d'ailleurs à ta propre transformation, rend possible une rencontre où tu peux devenir son fils et la reconnaître comme ta mère, malgré toutes les difficultés que votre relation a pu connaître.
Oui, c'est ça. Le fait est que c'est quelque chose que je raconte souvent. Comme nous, quand on a une mauvaise journée dans notre vie, quand on a une mauvaise journée au travail, parfois, on rentre chez soi et on est agressif avec des gens qu'on aime, on est dur avec des gens qu'on aime parce qu'on est stressé, parce qu'on n'est pas bien. Et après, on s'en veut, on sent qu'on a été traversé par une violence qui nous appartient pas, comme si la violence pouvait être une sorte de fluide et pas une propriété, mais quelque chose qui peut nous traverser sans nous appartenir. On le ressent tous à un moment donné ou l'autre dans nos vies. Et ma mère, cette violence comme fluide, c'était devenu une de ses conditions de vie. Elle était stressée tous les jours par la vie avec mon père. Et donc, elle était beaucoup plus dure. Et à partir du moment où elle s'est émancipée de ça, j'ai pu engager un dialogue avec elle parce qu'elle est devenue moins dure, elle est devenue plus tendre, elle est devenue plus... Et c'est ce que, en même temps que
ce bonheur, roman... Le bonheur change les gens. Le bonheur change les gens et les relations entre les gens, oui.
comme s'il y avait une pluralité d'individus, presque une pluralité d'habitus à l'intérieur des individus, de rapport au monde, de rapport aux autres, et que les conditions sociales permettaient à une personnalité d'éclore ou à une autre de s'effacer, et qu'au fond, quand on change la vie des gens, on change les gens. Et c'est très difficile de changer les gens individuellement, mais en changeant les situations, on transforme les gens. Et ma mère s'est retrouvée transformée par la transformation de sa vie. Son caractère s'est transformé par la transformation de sa vie. Dans le livre, je publie en même temps que ce roman sur ma mère un livre avec Ken Loach qu'on a fait tous les deux.
Un dialogue avec Ken Loach.
Oui, qui s'appelle donc Dialogue sur l'art et la politique, et dans lequel avec Ken Loach on parle de la double violence de la politique. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui est important. C'est cette double violence de la politique, c'est tout à coup des décisions politiques, des lois, des arrêtés, des édits qui vont enlever de l'argent aux gens, qui vont enlever des aides sociales, qui vont enlever de l'accès aux soins.
Qui était toute la fin de Qui a tué mon père.
Cette espèce de
mise en question des politiques économiques, sociales, culturelles qui brisent la vie des gens.
Mais oui, exactement. Et justement, là, l'enjeu, c'est de montrer que à la fois, il y a cette dépossession par la politique qui dépossède économiquement de la possibilité de se loger, de manger, d'exister. Et ensuite, il y a cette double, ce qu'on appelle avec Ken Loach, la double violence de la politique, qui est à quel point, justement, l'anxiété, le stress, la tension que produisent ces réformes économiques vont pouvoir, à certains moments, durcir les gens, les rendre moins généreux les uns à l'égard des autres, moins tolérants. Peut-être que si, dans mon enfance, on avait eu des conditions économiques moins dures, si on avait été moins stressé par la question est-ce qu'on va pouvoir manger, est-ce qu'on va pouvoir se loger, est-ce qu'on va pouvoir mettre du chauffage, peut-être que mes parents auraient été plus compréhensifs à mon égard en tant que gay, auraient été un petit peu plus ouverts, auraient été un petit peu plus à l'écoute. Et il y a cette deuxième dimension personnelle de la politique qui, je pense, est vraiment très importante, sur laquelle j'ai voulu insister dans ce livre Combat et métamorphose d'une femme. Les deux livres avec Qui a tué mon père forment une sorte de... Pour moi, ces livres, c'est des tragédies. Je lisais beaucoup Sophocle au moment où j'écrivais ces livres. Je traduisais aussi une tragédie sur Marilyn Monroe, écrite par Anne Carson. Pour moi, c'était de me dire sous Sophocle, les tragédies qu'on écrivait, c'était les dieux qui arrivaient, qui lançaient des malédictions aux individus. Maintenant, pour les individus des classes populaires, cette malédiction, c'est la politique. Cette malédiction, c'est tout à fait l'émergence de la politique dans la vie des gens qui vont leur enlever la possibilité de se loger, de manger, de se soigner, etc. Et comment toute cette violence qui arrive du haut, qui est non plus celle des dieux, mais celle des gouvernements, va tout à coup non seulement casser la vie, casser les corps, mais en plus casser, comme dans la tragédie grecque, les relations entre les individus. C'est pour ça aussi que ce sont des livres très courts, c'est des livres... Je voulais pas qu'on échappe à ces livres.
Un peu des interventions à la fois dans le champ littéraire, dans le champ culturel, dans le champ intellectuel et dans le champ politique.
Oui, comme si on pouvait tout à coup traverser la vie d'un individu, comme dans une tragédie de Sophocle en 2 heures, qu'on puisse pas reposer le livre sur le côté. J'ai comme horreur de cette image de la bourgeoisie qui disant un livre sur le canapé, comme ça, et puis le posant. J'avais pas envie.
Oui, ça nous arrive de poser un livre.
Moi aussi, mais j'essaie d'écrire des livres pour empêcher de
clients. Bien sûr, ton projet littéraire, parce que c'est un projet littéraire. Tes livres s'inscrivent dans le champ de la littérature, même si... à plusieurs reprises, et notamment dans le dernier livre, tu dis « j'écris contre la littérature ». C'est une phrase qui a fait sensation, qui a été citée partout. « J'écris contre la littérature ». Ça ne veut pas dire que tu fais pour la littérature, ça veut dire que tu écris contre la littérature telle qu'elle est instituée, établie, pratiquée autour de toi. De la même manière, dans « Qui a tué mon père », tu disais « je n'ai pas peur de me répéter parce que ce que j'écris, ce que je dis, ne répond pas aux exigences de la littérature ». Mais à celle de la nécessité et de l'urgence, à celle du feu. Il y a donc une sorte de un feu, une flamme, une énergie, une violence même dans tes livres, parce que tu es en insurrection contre le monde social tel qu'il est et dont tu vois les effets sur ta famille, tes parents. Et cette violence, tu la mets dans des livres pour donner une puissance qui porte tes livres et qui font que les lecteurs ressentent ce feu, cette flamme qui les anime. Qu'est-ce que c'est que faire une littérature qui dit qu'elle n'est pas de la littérature, qu'elle intervient contre la littérature, qu'elle se positionne contre la littérature et que ton problème n'est pas la littérature, mais le monde social. Malgré tout, tes livres sont écrits, travaillés, pensés. Ce ne sont pas des romans, parce que tu as cité plusieurs écrivaines qui t'ont influencé. Tu n'as pas cité Annie Ernaux, et notamment le livre dont on a parlé ici dans ce séminaire la semaine dernière. Annie Ernaux qui a écrit un livre sur son père, La Place, un livre sur sa mère, une femme, et qui est, comme je sais, une auteure que tu admires et dont le travail t'a beaucoup marqué. Elle dit à propos de son livre sur sa mère, « Ceci n'est pas une biographie, ni un roman, naturellement, peut-être quelque chose entre la littérature, la sociologie et l'histoire. Il fallait que ma mère, née dans un milieu dominé, dont elle a voulu sortir, devienne histoire pour que je me sente moins seul et factice dans le monde dominant des mots et des idées où, selon son désir, je suis passé. » On voit bien la proximité de ton projet avec celui d'une auteure comme Annie Ernaux, qui est de faire une littérature qui soit à l'intersection de préoccupations historiques, sociologiques et politiques, bien sûr. Ce que tu fais, c'est éminemment politique parce que c'est tout à fait sociologique.
Oui, parce que la littérature est majoritairement un instrument des dominants. Elle est lue par la bourgeoisie, elle est lue par les privilégiés. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on vient d'un autre monde et qu'on vient d'un autre milieu et qu'on commence à écrire, on se retrouve pris à l'intérieur de règles qui ont été constituées par un monde qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas celui des histoires qu'on a racontées. Je pense que Annie Ernaux, qui m'a immensément inspiré, pour qui j'ai une admiration illimitée et un amour illimité, elle a ressenti la même chose que moi, étant donné les histoires que j'ai à raconter, étant donné les corps que je voudrais illustrer, les voix que je voudrais faire entendre, la littérature telle qu'elle a été constituée ne peut pas fonctionner. Je ne pourrais pas parler adéquatement de ces corps, de ces vies, de ces existences, si je le fais avec les instruments qui ont été justement construits par des classes dominantes à l'intérieur de l'espace littéraire. Et moi, quand j'ai commencé à écrire, c'est étonnant parce que c'est presque des lois qui sont imprononcées, mais qui sont très présente dans la littérature. Dès qu'on commence à écrire, on se retrouve pris dans un système de normes qui sont d'autant plus puissantes qu'elles ne sont pas formulées directement. Il n'y a pas une sorte de règle de comment on devrait faire la littérature, mais il y a un ensemble de normes qu'on ressent immédiatement, qui est ne pas faire une littérature trop politique, ne pas faire une littérature trop sentimentale, parce que ça, ce serait le summum de la vulgarité, de faire pleurer, de chercher à faire ça, alors que moi, j'écris pour faire pleurer. Je parlais de Sophocle tout à l'heure, on disait beaucoup que quand Sophocle écrivait pour des tragédies, c'était un concours de larmes. Moi, j'aime bien concevoir aussi mes livres comme des concours de larmes, parce qu'il y a des vies qui sont tragiques, parce qu'il y a des vies qui sont détruites, et que aussi, exactement de la même manière que quand on pleure, après on se sent plus fort, on se sent renforcé, souvent après une crise de larmes. Écrire des livres qui font pleurer, c'est aussi donner la possibilité d'une force, d'une colère contre le monde, et de la manière dont le monde broie des vies, détruit des vies. Et donc, faudrait pas que ce soit trop politique, faudrait pas que ce soit trop émotif, il faudrait pas que ce soit trop explicite. Quand j'ai commencé à écrire, ce que j'entendais beaucoup de la part de critiques, à l'intérieur de l'espace de la critique, quand on voulait vanter un livre, c'était « c'est formidable dans ce livre parce que rien n'est dit, tout est suggéré, tout est à peine effleuré ». Comme si, au fond, il y avait un bénéfice esthétique au fait de ne pas dire la réalité. Parce que les gens sont plus à l'aise quand on ne dit pas la réalité, ça leur permet de ne pas se confronter.
Et puis il y a une opposition presque idéologique entre la littérature d'un côté et la sociologie et la théorie de l'autre. Ce que tu fais, c'est précisément de faire voler en éclats cette opposition entre la littérature et la sociologie. Ce que tu fais, c'est de la sociologie qui passe par une forme de littérature. Tu essaies de réinventer la littérature. Donc l'opposition sociologie-littérature, le personnel et l'intime et le collectif et le social, ces oppositions-là disparaissent. Enfin, tu les effaces, tu les défais, tu les déjoues en faisant le portrait de ton père et de ta mère. Ton premier livre était un volume collectif sur Pierre Bourdieu, où il y avait d'ailleurs un texte d'Annie Ernaux, un texte de moi, un texte de Geoffroy de la Gannerie, une dizaine de contributions. Ça s'appelle « Pierre Bourdieu, l'insoumission en héritage ». Et on voit que tu es très marqué par l'œuvre de Bourdieu et par la tradition de la sociologie critique.
Oui, parce que je pense que la vérité est aussi belle, voire plus belle que la métaphore, et que l'instrument par excellence de la sociologie, qui serait de restituer la vérité, que cette vérité est belle, ou encore plus qu'une métaphore. Donc moi, quand j'écris, je ne veux pas abandonner la dimension esthétique, mais simplement je veux changer la définition de ce qu'est l'esthétique.
Voilà. Merci.
Oui. Merci beaucoup.
Vous avez entendu le podcast Gästebuch, Livre d'or, Libro degli ospiti. Retrouvez tous les épisodes et plus d'informations sur notre site internet www.français.ethz.ch. À la prochaine.